Honoré de Balzac, Illusions perdues, 25. Blondet contrebalança l'envie qui dévorait Lousteau en disant à Finot qu'il fallait capituler avec le talent quand il était de cette force-là. Cet arrêt dicta la conduite de Lousteau, qui résolut de rester l'ami de Lucien et de s'entendre avec Finot pour exploiter un nouveau venu si dangereux en le maintenant dans le besoin. Ce fut un parti pris rapidement et compris dans toute son étendue entre ces deux hommes par deux phrases dites d'oreille à oreille. « Il a du talent. Il sera exigeant. Oh, bon. Je ne soupe jamais sans effroi avec des journalistes français, dit le diplomate allemand, avec une bonhomie calme et digne, en regardant Blondet qu'il avait vu chez la comtesse de Montcornet. Il y a un mot de Blücher que vous êtes chargé de réaliser.
Quel mot ? Dit Nathan.
Quand Blücher arriva sur les hauteurs de Montmartre avec Sacken en 1814, pardonnez-moi, messieurs, de vous reporter à ce jour fatal pour vous. Sacken, qui était un brutal, dit « Nous allons donc brûler Paris. »
« Gardez-vous-en bien.
La France ne mourra que de ça, » répondit Blücher en montrant ce grand chancre qu'il voyait étendu à leurs pieds, ardent et fumeux, dans la vallée de la Seine.
« Je bénis Dieu de ce qu'il n'y a pas de journaux dans mon pays. » reprit le ministre après une pause. « Je ne suis pas encore remis de l'effroi que m'a causé ce petit bonhomme coiffé de papier, qui, à 10 ans, possède la raison d'un vieux diplomate. Aussi ce soir, me semble-t-il que je soupe avec des lions et des panthères qui me font l'honneur de velouter leurs pattes.
« Il est clair, dit Blondet, que nous pouvons dire et prouver à l'Europe que votre Excellence a vomi un serpent ce soir, qu'elle a manqué l'inoculer à Mademoiselle Tullia, la plus jolie de nos danseuses, et là-dessus, faire des commentaires sur Ève, la Bible, le premier et le dernier péché. Mais, rassurez-vous, vous êtes notre hôte.
Ce serait drôle, dit Finot.
Nous ferions imprimer des dissertations scientifiques sur tous les serpents trouvés dans le cœur et dans le corps humain, pour arriver au corps diplomatique, dit Lousteau.
Nous pourrions montrer un serpent quelconque dans ce bocal de cerises à l'eau-de-vie, dit Vernou.
Vous finiriez par le croire vous-même, dit Vignon au diplomate.
Le serpent est assez ami de la danseuse, dit Du Bruel.
Dites d'un premier sujet, reprit Tullia.
Messieurs, ne réveillez pas vos griffes qui dorment,
s'écria le duc de Rhétoré.
L'influence et le pouvoir du journal n'est qu'à son aurore, dit Finot. Le journalisme est dans l'enfance, il grandira. Tout, dans 10 ans d'ici, sera soumis à la publicité. La pensée éclairera tout.
Elle flétrira tout, dit Blondet en interrompant Finot.
C'est un mot, dit Claude Vignon.
« Elle fera des rois, » dit Lousteau.
« Elle défera les monarchies, » dit le diplomate.
« Aussi, » dit Blondet, « si la presse n'existait point, faudrait-il ne pas l'inventer.
Mais là, voilà, nous en vivons.
Vous en mourrez, » dit le diplomate. « Ne voyez-vous pas que la supériorité des masses, en supposant que vous les éclairiez, rendra la grandeur de l'individu plus difficile ?
Qu'en semant le raisonnement au cœur des basses classes, vous récolterez la révolte et que vous en serez les premières victimes.
Que casse-t-on à Paris quand il y a une émeute ?
Les réverbères, dit Nathan.
Mais nous sommes trop modestes pour avoir des craintes. Nous ne serons que fêlés.
Vous êtes un peuple trop spirituel pour permettre à un gouvernement de se développer, dit le ministre.
Sans cela, vous recommenceriez avec vos plumes la conquête de l'Europe que votre épée n'a pas su garder.
« Les journaux sont un mal, » dit Claude Vignon.
on pouvait utiliser ce mal, mais le gouvernement veut le combattre. Une lutte s'ensuivra. Qui succombera? Voilà la question.
« Le gouvernement !» dit Blondet. « Je me tue à le crier. »
En France, l'esprit est plus fort que tout. Et les journaux ont de plus que l'esprit de tous les hommes spirituels l'hypocrisie de Tartuffe.
« Blondet, Blondet !» dit Finot. « Tu vas trop loin. Il y a des abonnés ici. »
« Tu es propriétaire d'un de ces entrepôts de venin. Tu dois avoir peur.
Mais moi, je me moque de toutes vos boutiques, quoique j'en vive. »
« Blondet a raison, dit Claude Vignon. Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour les partis. De moyen, il s'est fait commerce. Et, comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est, comme le dit Blondet, une boutique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux seront dans un temps donné lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins. Ils tueront les idées, les systèmes, les hommes, et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison. Le mal sera fait sans que personne en soit coupable. Je serai, moi, Vignon. Vous serez, toi, Lousteau, toi, Blondet, toi, Finot, des Aristides, des Platons, des Catons, des hommes de Plutarque. Nous serons tous innocents. Nous pourrons nous laver les mains de toute infamie. Napoléon a donné la raison de ce phénomène moral ou immoral, comme il vous plaira, dans un mot sublime que lui ont dicté ses études sur la Convention. Les crimes collectifs n'engagent personne. Le journal peut se permettre la conduite la plus atroce, personne ne s'en croit sali personnellement.
« Mais le pouvoir fera des lois répressives, » dit Dubruel.
« Il en prépare. » Bah. « Que peut la loi contre l'esprit français, dit Nathan, le plus subtil de tous les dissolvants ?»«
Les idées ne peuvent être neutralisées que par des idées, reprit Vignon. La terreur, le despotisme peuvent seuls étouffer le génie français dont la langue se prête admirablement à l'allusion, à la double entente. Plus la loi sera répressive, plus l'esprit éclatera, comme la vapeur dans une machine à soupape. » Ainsi, le roi fait du bien. Si le journal est contre lui, ce sera le ministre qui aura tout fait, et réciproquement. Si le journal invente une infâme calomnie, on la lui a dite. À l'individu qui se plaint, il sera quitte pour demander pardon de la liberté grande. S'il est traîné devant les tribunaux, il se plaint qu'on ne soit pas venu lui demander une rectification. Mais demandez-la lui. Il la refuse en riant. Il traite son crime de bagatelle. Enfin, il bafoue sa victime quand elle triomphe. S'il est puni, s'il a trop d'amendes à payer, il vous signalera le plaignant comme un ennemi des libertés, du pays et des Lumières. Il dira que M. Untel est un voleur, en expliquant comment il est le plus honnête homme du royaume. Ainsi, ses crimes, bagatelles. Ses agresseurs, des monstres. Et il peut en un temps donné faire croire ce qu'il veut à des gens qui le lisent tous les jours. Puis rien de ce qui lui déplaît ne sera patriotique, et jamais il n'aura tort. Il se servira de la religion contre la religion, de la charte contre le roi. Il bafouera la magistrature, quand la magistrature le froissera. Il la louera, quand elle aura servi les passions populaires. Pour gagner des abonnés, il inventera les fables les plus émouvantes, il fera la parade comme Bobèche. Le journal servirait son père tout cru à la croque au sel de ses plaisanteries, plutôt que de ne pas intéresser ou amuser son public. Ce sera l'acteur, M.
mettant les cendres de son fils dans l'urne pour pleurer véritablement. La maîtresse sacrifiant tout à son ami.
« C'est enfin le peuple in folio !» s'écria Blondet en interrompant Vignon.
« Le peuple hypocrite et sans générosité !» reprit Vignon. « Il bannira de son sein le talent, comme Athènes a banni Aristide. Nous verrons les journaux, dirigés d'abord par des hommes d'honneur, tomber plus tard sous le gouvernement des plus médiocres qui auront la patience et la lâcheté de gomme élastique qui manque au beau génie, ou à des épiciers qui auront de l'argent pour acheter des plumes. Nous voyons déjà ces choses-là. Mais dans 10 ans, le premier gamin sorti du collège se croira un grand homme. Il montera sur la colonne d'un journal pour souffleter ses devanciers. Il les tirera par les pieds pour avoir leur place. Napoléon avait bien raison de museler la presse. Je gagerais que, sous un gouvernement élevé par elle, les feuilles de l'opposition battraient en brèche par les mêmes raisons et par les mêmes articles qui se font aujourd'hui contre celui du roi. Ce même gouvernement, au moment où il leur refuserait quoi que ce fût. Plus on fera de concessions aux journalistes, plus les journaux seront exigeants. Les journalistes parvenus seront remplacés par des journalistes affamés et pauvres. La plaie est incurable. Elle sera de plus en plus maligne, de plus en plus insolente. Et plus le mal sera grand, plus il sera toléré, jusqu'au jour où la confusion se mettra dans les journaux par leur abondance, comme à Babylone. Nous savons, tous tant que nous sommes, que les journaux iront plus loin que les rois en ingratitude, plus loin que le plus sale commerce en spéculation et en calcul, qu'ils dévoreront nos intelligences à vendre tous les matins leurs 3-6 cérébrales. Mais nous y écrirons tous, comme ces gens qui exploitent une mine de vif argent en sachant qu'ils y mourront. Voilà, là-bas, à côté de Coralie, un jeune homme. Comment se nomme-t-il ?
Lucien. Il est beau, il est poète, et, ce qui vaut mieux pour lui, homme d'esprit.
Eh bien, il entrera dans quelques-uns de ces mauvais lieux de la pensée appelés journaux. Il y jettera ses plus belles idées. Il y desséchera son cerveau. Il y corrompra son âme. Il y commettra ses lâchetés anonymes qui, dans la guerre des idées, remplacent les stratagèmes, les pillages, les incendies, les revirements de bord dans la guerre des condottieries. Quand il aura, lui, comme 1000 autres, dépenser quelques beaux génies au profit des actionnaires, ces marchands de poison le laisseront mourir de faim s'il a soif, et de soif s'il a faim.
« Merci, » dit Finot.
« Mais, mon Dieu, » dit Claude Vignon, « je savais cela, je suis dans le bagne, et l'arrivée d'un nouveau forçat me fait plaisir. Blondet et moi, nous sommes plus forts que messieurs tel et tel, qui spéculent sur nos talents, et nous serons néanmoins toujours exploités par eux. Nous avons du cœur sous notre intelligence. Il nous manque les féroces qualités de l'exploitant. Nous sommes paresseux, contemplateurs, méditatifs, jugeurs. On boira notre cervelle, et l'on nous accusera d'inconduite.
Oh, j'ai cru que vous seriez plus drôle, s'écria Florine.
Florine a raison, dit Blondet. Laissons la cure des maladies publiques à ces charlatans d'hommes d'État. Comme dit Charlet, cracher sur la vendange, jamais.
Savez-vous de quoi Vignon me fait l'effet ? Dit Lousteau en montrant Lucien.
D'une de ces grosses dames de la rue du Pélican qui dirait à un collégien : Mon petit, tu es trop jeune pour venir ici.
Cette saillie fit rire. Mais elle plut à Coralie. Les négociants buvaient et mangeaient en écoutant.
Quelle nation que celle où il se rencontre
« Tant de bien et tant de mal, » dit le ministre au duc de Rhétoré. « Messieurs, vous êtes des prodigues qui ne pouvaient pas vous ruiner. » Ainsi, par la bénédiction du hasard, aucun enseignement ne manquait à Lucien sur la pente du précipice où il devait tomber. D'Arthez avait mis le poète dans la noble voie du travail, en réveillant le sentiment sous lequel disparaissaient les obstacles. Lousteau lui-même avait essayé de l'éloigner par une pensée égoïste, en lui dépeignant le journalisme et la littérature sous leur vrai jour. Lucien n'avait pas voulu croire à tant de corruption cachée. Mais il entendait enfin des journalistes criant de leur mal. Il les voyait à l'œuvre, éventrant leur nourrice pour prédire l'avenir. Il avait, pendant cette soirée, vu les choses comme elles sont. Au lieu d'être saisi d'horreur à l'aspect du cœur même de cette corruption parisienne, si bien qualifiée par Blücher, il jouissait avec ivresse de cette société spirituelle. Ces hommes extraordinaires, sous l'armure damasquinée de leurs vices et le casque brillant de leur froide analyse, il les trouvait supérieurs aux hommes graves et sérieux du Cénacle. Puis, il savourait les premiers délices de la richesse. Il était sous le charme du luxe, sous l'empire de la bonne chère. Ses instincts capricieux se réveillaient. Il buvait pour la première fois des vins d'élite. Il faisait connaissance avec les mets exquis de la haute cuisine. Il voyait un ministre, un duc et sa danseuse, mêlés aux journalistes, admirant leur atroce pouvoir. Il sentit une horrible démangeaison de dominer ce monde de rois. Il se trouvait la force de les vaincre. Enfin, cette Coralie qu'il venait de rendre heureuse par quelques phrases, il l'avait examinée à la lueur des bougies du festin, à travers la fumée des plats et le brouillard de l'ivresse. Elle lui paraissait sublime. L'amour la rendait si belle. Cette fille était d'ailleurs la plus jolie, la plus belle actrice de Paris. Le Cénacle, ce siège de l'intelligence noble, dut succomber sous une tentation si complète. La vanité particulière aux auteurs venait d'être caressée chez Lucien par des connaisseurs. Il avait été loué par ses futurs rivaux. Le succès de son article et la conquête de Coralie étaient deux triomphes à tourner une tête moins jeune que la sienne. Pendant cette discussion, tout le monde avait remarquablement bien mangé, supérieurement bu. Lousteau, le voisin de Camusot, lui versa deux ou trois fois du kirsch dans son vin, sans que personne y fît attention, et il stimula son amour-propre pour l'engager à boire. Cette manœuvre fut si bien menée que le négociant ne s'en aperçut pas. Il se croyait, dans son genre, aussi malicieux que les journalistes. Les plaisanteries acerbes commencèrent au moment où les friandises du dessert et les vins circulèrent. Le diplomate, en homme de beaucoup d'esprit, fit un signe au duc et à la danseuse dès qu'il entendit ronfler les bêtises qui annoncèrent chez ces hommes d'esprit les scènes grotesques par lesquelles finissent les orgies, et tous trois, ils disparurent. Dès que Camusot eut perdu la tête, Coralie et Lucien, qui, durant tout le souper, se comportèrent en amoureux de 15 ans, s'enfuirent par les escaliers et se jetèrent dans un fiacre. Comme Camusot était sous la table, Matifat crut qu'il avait disparu de compagnie avec l'actrice. Il laissa ses hôtes fumant, buvant, riant, disputant, et suivit Florine quand elle alla se coucher. Le jour surprit les combattants, ou plutôt Blondet, buveur intrépide, le seul qui pût parler et qui proposait aux dormeurs un toast à l'aurore aux doigts de rose.
Lucien n'avait pas l'habitude des orgies parisiennes. Il jouissait bien encore de sa raison quand il descendit les escaliers. Mais le grand air détermina son ivresse, qui fut hideuse. Coralie et sa femme de chambre furent obligées de monter le poète au premier étage de la belle maison où logeait l'actrice, rue de Vendôme. Dans l'escalier, Lucien faillit se trouver mal et fut ignoblement malade. «
Vite, Bérénice !» s'écria Coralie. « Du thé ! Fais du thé !»«
Ce n'est rien, c'est l'air !»
disait Lucien.
« Et puis, je n'ai jamais tant bu !»«
Pauvre enfant, c'est innocent comme un agneau !» dit Bérénice.
Bérénice était une grosse Normande aussi laide que Coralie était belle. Enfin, Lucien fut mis à son insu dans le lit de Coralie. Aidée par Bérénice, l'actrice avait déshabillé avec le soin et l'amour d'une mère pour un petit enfant son poète, qui disait toujours
« C'est rien, c'est l'air. Merci, maman. »
« Comme il dit bien, maman !» s'écria Coralie en le baisant dans les cheveux.
« Quel plaisir d'aimer un pareil ange, mademoiselle ! Et où l'avez-vous pêché ?
Je ne croyais pas qu'il pût exister un homme aussi joli que vous êtes belle !» dit Bérénice.
Lucien voulait dormir. Il ne savait où il était et ne voyait rien. Coralie lui fit avaler plusieurs tasses de thé, puis elle le laissa dormant.
« La portière, ni personne ne nous a vus, » dit Coralie.
« Non, je vous attendais. Victoire ne sait rien. »
« Plus souvent, » dit Bérénice.
10 heures après, vers midi, Lucien se réveilla sous les yeux de Coralie qui l'avait regardé dormant. Il comprit cela, le poète. L'actrice était encore dans sa belle robe abominablement tachée, et de laquelle elle allait faire une relique. Lucien reconnut les dévouements, les délicatesses de l'amour vrai qui voulait sa récompense. Il regarda Coralie. Coralie fut déshabillée en un moment et se coula comme une couleuvre auprès de Lucien. À 5 heures, le poète dormait, bercé par des voluptés divines. Il avait entrevu la chambre de l'actrice, une ravissante création du luxe, toute blanche et rose, un monde de merveilles et de coquettes recherches qui surpassait ce que Lucien avait admiré déjà chez Florine. Coralie était debout. Pour jouer son rôle d'Andalouse, elle devait être à 7 heures au théâtre. Elle avait encore contemplé son poète endormi dans le plaisir. Elle s'était enivrée sans pouvoir se repaître de ce noble amour qui réunissait les sens au cœur et le cœur au sens pour les exalter ensemble. Cette divinisation qui permet d'être deux ici-bas pour sentir, un seul dans le ciel pour aimer, était son absolution. À qui d'ailleurs ? La beauté surhumaine de Lucien n'aurait-elle pas servi d'excuse. Agenouillée à ce lit, heureuse de l'amour en lui-même, l'actrice se sentait sanctifiée. Ses délices furent troublées par Bérénice.
« Voici le Camusot, il vous sait ici » cria-t-elle.
Lucien se dressa, pensant avec une générosité innée à ne pas nuire à Coralie. Bérénice leva un rideau. Lucien entra dans un délicieux cabinet de toilette où Bérénice et sa maîtresse apportèrent, avec une prestesse inouïe, les vêtements de Lucien. Quand le négociant apparut, les bottes du poète frappèrent les regards de Coralie. Bérénice les avait mises devant le feu pour les chauffer, après les avoir cirées en secret. La servante et la maîtresse avaient oublié ces bottes accusatrices. Bérénice partit après avoir échangé un regard d'inquiétude avec sa maîtresse. Coralie se plongea dans sa causeuse et dit à Camusot de s'asseoir dans une gondole en face d'elle. Le brave homme, qui adorait Coralie, regardait les bottes
et n'osait lever les yeux sur sa maîtresse. « Dois-je prendre la mouche pour cette paire de bottes et quitter Coralie ?»«
La quitter ? Ce serait se fâcher pour peu de choses. Il y a des bottes partout. Celle-ci serait mieux placée dans l'étalage d'un bottier ou sur les boulevards à se promener aux jambes d'un homme. Cependant, ici, sans jambes, elles disent bien des choses contraires à la fidélité. J'ai 50 ans, il est vrai. Oh, je dois être aveugle, comme l'amour. »
Ce lâche monologue était sans excuse. La paire de bottes n'était pas de ces demi-bottes en usage aujourd'hui, et que, jusqu'à un certain point, un homme distrait pourrait ne pas voir. C'était, comme la mode ordonnait alors de les porter, une paire de bottes entières, très élégantes et à glands, qui reluisaient sur des pantalons collants presque toujours de couleur claire, et où se reflétaient les objets comme dans un miroir. Ainsi, les bottes crevaient les yeux de l'honnête marchand de soierie, et, disons-le, elles lui crevaient le cœur.
« Qu'avez-vous ? » lui dit Coralie.
« Rien, » dit-il.
« Sonnez, » dit Coralie en souriant de la lâcheté de Camusot.
« Bérénice, » dit-elle à la Normande dès qu'elle arriva, « ayez-moi donc des crochets pour que je mette encore ces damnées bottes. Vous n'oublierez pas de les apporter ce soir dans ma loge. »«
Comment, vos bottes ?» dit Camusot qui respira plus à l'aise.
« Que croyez-vous donc ? » demanda-t-elle d'un air hautain.
« Grosse bête ! N'allez-vous pas croire ?
Il le croirait, » dit-elle à Bérénice.
« J'ai un rôle d'homme dans la pièce de chose, et je ne me suis jamais mise en homme. Le bottier du théâtre m'a apporté ces bottes-là pour essayer à marcher, en attendant la paire de laquelle il m'a pris mesure. Il me les a mises, mais j'ai tant souffert que je les ai ôtées, et je dois cependant les remettre. »
« Ne les remettez pas si elles vous gênent, » dit Camusot,
que les bottes avaient tant gêné.
« Mademoiselle, » dit Bérénice, « ferait mieux, au lieu de se martyriser, comme tout à l'heure.
Elle en pleurait, monsieur. Et si j'étais homme, jamais une femme que j'aimerais ne pleurerait.
Elle ferait mieux de les porter en maroquin bien mince.
Mais l'administration est si ladre.
« Monsieur, vous devriez aller lui en commander. »«
Ah oui, oui !» dit le négociant.
« Vous vous levez, » dit-il à Coralie.
« À l'instant, je ne suis entré qu'à 6 heures,
après vous avoir cherché partout. Vous m'avez fait garder mon fiacre pendant 7 heures.
Voilà de vos soins, m'oublier pour des bouteilles. J'ai dû me soigner, moi qui vais jouer maintenant tous les soirs. » Tant que l'alcade fera de l'argent. Je n'ai pas envie de mentir à l'article de ce jeune homme.
« Oh, il est beau, cet enfant-là, » dit Camusot.
« Vous trouvez ? Je n'aime pas ces hommes-là. Ils ressemblent trop à une femme.
Et puis, ça ne s'est pas aimé comme vous autres, vieille bête du commerce. Vous vous ennuyez tant. »
« Monsieur, dîne-t-il avec madame ? » demanda Bérénice.
« Non, j'ai la bouche empâtée. »«
Vous avez été joliment paf hier. »«
Ah, papa Camusot, d'abord, moi je n'aime pas les hommes qui boivent. »«
Tu feras un cadeau à ce jeune homme, » dit le négociant.
« Ah oui, j'aime mieux les payer ainsi que de faire ce que fait Florine. »«
Allons, mauvaise race qu'on aime, allez-vous-en. »«
Ou donnez-moi ma voiture pour que je file au théâtre. »
« Vous l'aurez demain pour dîner avec votre directeur, au Rocher de Cancale. Il ne donnera pas la pièce nouvelle dimanche. »«
Venez, je vais dîner, » dit Coralie en emmenant Camusot.
Une heure après, Lucien fut délivré par Bérénice, la compagne d'enfance de Coralie, une créature aussi fine, aussi déliée d'esprit qu'elle était corpulente.
« Restez ici. Coralie reviendra seule. »
Elle veut même congédier Camusot s'il vous ennuie, dit Bérénice à Lucien.
Mais, cher enfant de son cœur,
Vous êtes trop ange pour la ruiner. » Elle me l'a dit, elle est décidée à tout planter là, à sortir de ce paradis pour aller vivre dans votre mansarde. Oh, les jaloux, les envieux! Ne lui ont-ils pas expliqué que vous n'aviez ni sou ni maille, que vous viviez au quartier latin? Je vous suivrai, voyez-vous, je vous ferai votre ménage. Mais je viens de consoler la pauvre enfant. Pas vrai, monsieur, que vous avez trop d'esprit pour donner dans de pareilles bêtises? Ah, vous verrez bien que l'autre gros n'a rien que le cadavre, et que vous êtes le chéri, le bien-aimé, la divinité à laquelle on abandonne l'âme. Si vous saviez comme ma Coralie est gentille quand je lui fais répéter ses rôles. Un amour d'enfant, quoi. Elle méritait bien que Dieu lui envoyât un de ses anges. Elle avait le dégoût de la vie. Elle a été si malheureuse avec sa mère, qui la battait, qui l'a vendue. Oui, monsieur, une mère, sa propre enfant. Oh, si j'avais une fille, je la servirais comme ma petite Coralie, de qui je me suis fait un enfant. Voilà le premier bon temps que je lui ai vu, la première fois qu'elle a été bien applaudie. Il paraît que, vu ce que vous avez écrit, on a monté une fameuse claque pour la seconde représentation. Pendant que vous dormiez, Braulard est venu travailler avec elle. « Qui, Braulard ?» demanda Lucien, qui crut avoir entendu déjà ce nom. « Le chef des claqueurs, qui, de concert avec elle, est convenu des endroits du rôle où elle sera soignée. Quoi qu'elle se dise son amie, Florine pourrait vouloir lui jouer un mauvais tour et prendre tout pour elle. Tout le boulevard est en rumeur à cause de votre article. » Quel lit arrangé pour les amours d'une fée et d'un prince, dit-elle en mettant sur le lit un couvre-pied en dentelle. Elle alluma les bougies. Aux lumières, Lucien, étourdi, se crut en effet dans un conte du cabinet des fées. Les plus riches étoffes du cocon d'or avaient été choisies par Camusot pour servir aux tentures et aux draperies des fenêtres. Le poète marchait sur un tapis royal. Les meubles en palissandre sculpté arrêtaient dans les tailles du bois des frissons de lumière qui y papillotaient. La cheminée en marbre blanc resplendissait des plus coûteuses bagatelles. La descente du lit était en cygne bordé de martre. Des pantoufles en velours noir, doublées de soie pourpre, y parlait des plaisirs qui attendaient le poète des marguerites. Une délicieuse lampe pendait du plafond tendu de soie. Partout, des jardinières merveilleuses montraient des fleurs choisies, de jolies bruyères blanches, des camélias sans parfum. Partout vivaient les images de l'innocence. Il était impossible d'imaginer là une actrice et les mœurs du théâtre. Bérénice remarqua l'ébahissement de Lucien. « Est-ce gentil ? » lui dit-elle d'une voix câline. « Ne serez-vous pas mieux là pour aimer que dans un grenier ? » ?»« Empêchez son coup de tête, » reprit-elle en amenant devant Lucien un magnifique guéridon chargé de mets dérobés au dîner de sa maîtresse, afin que la cuisinière ne pût soupçonner la présence d'un amant. Lucien dîna très bien, servi par Bérénice dans une argenterie sculptée, dans des assiettes peintes à 1 louis la pièce. Ce luxe agissait sur son âme, comme une fille des rues agit avec ses chairs nues et ses bas blancs bien tirés sur un lycéen. « Est-il heureux, ce Camusot ? » s'écria-t-il. « Heureux ? » reprit Bérénice. « Ah ! Il donnerait bien sa fortune pour être à votre place et pour troquer ses vieux cheveux gris contre votre jeune chevelure blonde. » Elle engagea Lucien, à qui elle donna le plus délicieux vin que Bordeaux ait soigné pour le plus riche anglais, à se recoucher en attendant Coralie, à faire un petit somme provisoire. Et Lucien
avait en effet envie de se coucher dans ce lit qu'il admirait. Bérénice, qui avait lu ce désir dans les yeux du poète, en était heureuse pour sa maîtresse. À 10h30, Lucien s'éveilla sous un regard trempé d'amour. Coralie était là dans la plus voluptueuse toilette de nuit. Lucien avait dormi. Lucien n'était plus ivre que d'amour. Bérénice se retira, demandant « À quelle heure demain ?»« 11h. Tu nous apporteras notre déjeuner au lit. Je n'y serai pour personne avant 2h. »